Je voudrais commencer par parler un petit peu de ma formation. En fait, je ne suis pas sociologue, mais par ma formation, je suis plutôt issue des disciplines de l'aménagement de l'espace. Donc, le regard, disons, que je porte sur les controverses et les transversalités critiques propres à aux évolutions de la notion de développement durable est plutôt un regard d'architecte, parce que je suis architecte de formation, travaillant à présent au sein de mon postdoctorat dans l'école du paysage de Versailles. Donc, du fait de ma formation, je m'intéresse plutôt aux retombées spatiales et à l'occasion aussi aux conséquences que les retombées spatiales, donc physiques, des discours formés par les politiques autour du développement durable, notamment autour d'un objet spécial qui est celui des énergies vertes, donc des agri-énergies, quelles conséquences différentes manières de s'approprier de cette logique sur l'aménagement de l'espace. Et en particulier, il y a un lieu préférentiel d'observation que j'ai élu au fil de ma recherche doctorale et maintenant postdoctorale, qui est celui de la marge, en fait, des lieux de marge entre la ville et la campagne, donc un peu ce qu'on appelle le périurbain, et voir un peu comment, au sein des périurbains, des sujets, spécialement les sujets de l'énergie verte, ont porté à certaines déclinations, à certaines formes de controverses par rapport à la gestion des espaces périurbains. Et l'enjeu un petit peu pour la communication à ces colloques, c'était le fait d'essayer de croiser un petit peu cette réflexion menée au sein de mon postdoctorat avec les observations, les réflexions autour de la justification écologique. Donc, comment, en fait, cette notion de la grandeur verte avait été, si on peut parler de ça, en fait, on pouvait dire que la rhétorique politique, au sein d'un certain cas d'étude particulier, qui, comme on verra, ce sera celui du parc agricole Sud-Milan, avait produit quand même des impacts importants au niveau de l'organisation spatiale des formes agricoles dans les milieux périurbains. Donc, pour contextualiser ma réflexion autour des énergies vertes, en fait, je voudrais commencer par tisser un cadre général d'un concept dans lequel va s'encadrer puis ma réflexion sur les énergies vertes en particulier, et c'est en général le concept de durabilité énergétique, et carrément ayant comme perspective finale une remise en question de cette définition. Et je suis partie d'une définition de durabilité énergétique issue du Conseil mondial de l'énergie. C'est un choix, enfin pas nôtre. J'ai décidé de partir de cette remise en question de cette notion par cette définition en particulier, parce que d'abord, le Conseil mondial de l'énergie, il me semble un peu un symbole du monde de fer des enjeux énergétiques, parce que c'est une organisation fondée à la fois par des acteurs publics et des acteurs privés, dans le sens que c'est un réseau qui comprend une centaine à peu près de comités nationaux, au sein desquels sont intégrées les collectivités locales, mais aussi les industries. Donc les entreprises jouent un rôle particulier au sein du marché de l'énergie. Donc il me semble important, voire un peu déchiffrer un peu à la lumière de cette transversalité publique-privée du Comité mondial de l'énergie, la notion de durabilité énergétique. Alors, elle est axée autour de trois mots-clés: accessible, disponible, acceptable, dans le sens qu'une énergie pour s'inscrire dans une démarche de développement durable devrait respecter ces trois paramètres. Et c'est intéressant aussi de voir comme ils ont, même si au départ ça peut être un peu flou cette définition, en fait, ils ont essayé quand même de modéliser ces trois mots-clés, et c'est intéressant comme ils sont ce qui est ressorti en fait de cet essai de modélisation, pour voir, comme on voit dans les images que je montre ici, comment en fait selon les différents pays et selon surtout les différents types de scénarios politiques, ces trois mots-clés peuvent assumer une forme et donc un poids différente pour définir le concept d'une énergie effectivement durable. Mais la chose que sur laquelle je voulais venir, c'était en fait une idée de remettre un petit peu en question cette définition qui avait été donnée de la durabilité énergétique. Donc d'abord, en remettant en question l'idée que l'énergie peut être considérée en tant qu'elle-même un objet durable. Donc quelle transversalité critique porte le choix de travailler et de regarder à l'énergie en tant qu'objet durable. Et aussi regarder si il y a de manière contradictoire, d'emploi d'abord contradictoire, de regarder, d'utiliser le mot aussi durable en référence à l'énergie. Et donc si il y a des instances opposées qui se forment autour, voilà, d'une quête de durabilité au sein d'une partie spéciale de la population urbanisée, notamment les populations vivant à la lisière entre la campagne et la ville, donc les populations périurbaines, et enfin regarder un petit peu comment en fait les conflits et les controverses générées de différentes manières de regarder aux énergies et aux énergies vertes en particulier peuvent à leur tour faire évoluer aussi la définition de durabilité énergétique et comme cette dernière peut à son tour amener des éléments d'inflexion sur la définition même de développement durable. Donc je suis, comme je le disais, j'ai un peu intégré certaines réflexions qui étaient issues de l'article autour de la, aussi de la justification écologique, notamment autour d'une réflexion qui était centrée autour du concept de la grandeur verte. Et l'idée qu'on retrouve au fil du texte d'associer grand et écologique ouvert par contraposition à petit et polluant. Comment cette idée, cette différence entre ces deux statuts qui ont don aux êtres à la fois grandes et vertes ou petits et polluants, comment cette idée-là a fait évoluer ou pour faire évoluer notre réflexion, notre jugement aussi sur les politiques qui sont appelées à gérer le choix de l'aménagement de l'espace qui est nourri ou est censé être nourri par un discours énergétiquement soutenable. Et donc, et surtout, la chose qui m'avait intéressée en essayant cette application à l'échelle des énergies vertes, c'était l'idée des biens communs qui était soulevée dans les textes. Et comment, en effet, l'idée d'utiliser une énergie propre qui pose pas, qui n'entraîne pas des conséquences négatives sur l'environnement et peut être considérée comme un fondement d'un bien commun. Et finalement aussi, peut-être c'est ça les passages que, de mon point de vue et au sein de mon analyse sur l'évolution des espaces périurbains, comment cette idée d'utiliser l'idée de l'énergie verte en tant qu'un bien commun peut à son tour entraîner un nouvel ordre de justification, c'est-à-dire un ouvert de justification qui... Et pourtant, peut entraîner aussi des équivalences ou quand même des passages, des glissements un peu dangereux, à mon avis, qui portent justement sur des généralisations des besoins. Et aussi, on évolue dans les général, donc les passages du personnel à comment un bien qui est réputé par les politiques, un bien qui est dans la plupart des cas aussi intéressant pour leur politique, pour être réputé, considéré un bien commun. Et comment cet glissement du commun, du personnel au commun, du particulier au général peut aussi entraîner une évaluation simpliste et atopique des caractéristiques des territoires. C'est-à-dire comment la logique des énergies vertes, d'employer l'énergie verte comme un bien commun, peut généraliser un petit peu des images du périurbain, comment on peut penser d'appliquer certains formatages, disons, de l'idée des énergies vertes, et aller vers l'homogénéisation et la généralisation des besoins et aussi des espaces urbains. Considéré. Comme je vous disais, alors, mon centre d'intérêt particulier est sont les agroénergies en milieu périurbain, c'est-à-dire comment, dans les campagnes périurbaines, on est en train de développer cette idée, cette typologie des cultures énergétiques. Donc, quelles conséquences à l'échelle spatiale et aussi socioculturelle cette déclination de la multifonctionnalité en agriculture a, à la fois, comme je vous disais, sur la structure du paysage périurbain, mais aussi sur les représentations sociales, donc sur le regard que les populations aussi portent sur les paysages agricoles périurbains. Donc c'est une, comment dire, un double objectif, à la fois sur comment regarder un petit peu les conséquences de la chose spatiale et aussi socioculturelle, pour voilà, retourner un petit peu sur l'objet paysage, qui est comme dans la plupart voilà, des philosophies au moins, hein, et des approches critiques au moins français, est quand même un objet qui s'y situe par rapport au territoire, par sa définition et quand même par sa connotation esthétique. Donc les cas, l'exemple que je choisis à aborder, c'est lui d'un parc périurbain qui se situe à la périphérie de la ville de Milan. Et c'est un parc, c'est pas un parc national, c'est un parc départemental. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je examinerai surtout des utiles et des documents politiques issus de la province de Milan, c'est-à-dire du département. Et le choix de ces parcs est dû aussi, d'abord pour l'intérêt carrément en tant que parc périurbain, et aussi parce que c'est un parc qui a quand même une riche configuration paysagère, aussi une valeur d'entité sémiotique, parce que déjà, dans la littérature un peu du 19e siècle, on retrouve dans ce parc un peu l'idée d'une identité à la fois urbaine, parce que impossibilité de la ville, mais aussi une idée de partage intergénérationnel autour du métier de l'agriculture proche de la ville. Mais un parc aussi qui, à cause de sa proximité de la ville, souffre de la problématique un peu transversale à la plupart de cette situation de périurbanité, du gaspillage à la source foncière, et aussi, on le verra un petit peu dans le développement de la présentation, une banalisation importante des valeurs socio-économiques et des dynamiques agricoles. Alors d'abord, quelques mots sur un outil de planification, le plan agricole triennal. Pourquoi ? Parce que à partir de ce plan agricole triennal, on a posé un petit peu sous la table la problématique de trouver des solutions et des déclinations concrètes à la notion de multifonctionnalité en agriculture. C'est une notion qui est issue du agenda 21 et le fait d'avoir institué le 13e pilier de la politique agricole communautaire et autour du développement rural, c'est-à-dire d'extendre un petit peu au-delà de la simple productivité agricole aussi à d'autres fonctions la valeur du développement rural. Donc cet objectif du développement rural et donc de la fonctionnalité en général a été posé comme des points de départ et aussi des objectifs de ces plans agricoles triennales au sein duquel s'est un peu développé les politiques les plus contraignantes aussi du point de vue énergétique pour les parcs agricoles sud Milan. Donc les trois objectifs sont reflètent un petit peu les trois piliers du développement durable, donc la compétitivité économique, la valorisation de l'environnement et aussi l'amélioration du cadre de vie. Donc on retrouve un petit peu les trois sphères du développement durable, compétitivité, économie, socioculturelle et écologie. Et aussi, deux stratégies. Par le fait d'étendre cet objectif, l'idée est celle de poursuivre deux stratégies, donc l'approche multifonctionnelle, comme on l'a dit, et l'implication directe des agriculteurs autour de démarches gestionnelles. Et dans tout ça, quel rôle ont les agroénergies ? Un rôle plutôt important, parce qu'en fait, ils sont utilisés pas mal dans ces documents comme un petit peu un des éléments sur lesquels s'appuyer pour décliner cette idée des multifonctionnalités en agriculture en échelle un peu plus concrète. Donc l'idée est celle que l'importance des agroénergies n'est pas seulement due au fait qu'elles fournissent une source d'énergie alternative, donc propre, non polluante, etc. Mais l'idée importante, c'est qu'elles peuvent incarner des instances de nature socio-économique, c'est-à-dire qu'elles peuvent assurer un développement équilibré des territoires ruraux. Et aussi, c'est une idée, tous les points que j'annonce ici sont tirés littéralement de documents en question. Et donc, un développement plus équilibré, du point de vue de la, du cadre de vie des habitants et aussi des entrepreneurs agricoles au sein du parc. Et aussi sont sources de revenus complémentaires. Donc, le fait de, aussi d'utiliser une parcelle agricole pour, en milieu périurbain pour y implanter une culture dédiée à la biomasse, ça veut dire en gros aussi faire en sorte de présider un petit peu ce territoire et le protéger par rapport à l'avancée du bétonnage urbain, donc préserver la ressource foncière. Et aussi, l'idée est celle d'aller dans une direction d'une gestion plus rationnelle. À la fois à l'échelle paysagère et environnementale, c'est-à-dire paysagère dans le sens de comment dire, préserver certaines formules, certaines structures et certaines organisations du paysage, de ce paysage du parc, mais aussi environnemental pour préserver aussi la biodiversité, en gros le fait de garder vertes certaines parcelles du périurbain, même si vouées à la biomasse. Ce serait une manière de préserver un petit peu la biodiversité de la faune et de la faune à l'intérieur du parc. Mais la chose intéressante aussi, la manière dans laquelle est abordée l'approche des agroénergies, et qui me semble ici, puisqu'on parle des critiques, de en mettre en valeur, c'est le rôle aussi sont appelés à avoir les entrepreneurs au sein de cette nouvelle visée agroénergétique. Alors, en gros, ce qu'on demande aux entrepreneurs agricoles de faire, c'est de construire des filières courtes. Donc, des filières courtes parce que la plupart des parcelles agricoles qui voudraient être converties pour la fonctionnalité de production bioénergétique sont des petites parcelles, parce que quand même la plupart du parc a été la plupart du parc dans les périurbains urbains, donc dans la partie dans laquelle les politiques ont décidé d'implanter les parcelles agroénergétiques, c'est vraiment à la lisière avec la ville. Donc il s'agit quand même de ressources foncières extrêmement érosées par l'urbain. Donc ce sont petites parcelles et dans lesquelles pourrait se développer une filière courte. Donc c'est pas vraiment un intérêt économique, parce que quand même les entrepreneurs ne pourraient pas revendre leur énergie, disons, mais seulement l'utiliser eux-mêmes en tant que producteurs, consommateurs. Mais la chose intéressante, c'est que l'idée de l'agroénergie est utilisée aussi comme marque distinctive, en fait. C'est-à-dire, les pouvoirs publics un peu incitent les entrepreneurs à prendre cette voie, à monter cette voie, parce que pourrait donner une sorte de marque particulière à leur entreprise. Donc, il y a beaucoup l'idée d'ouverture au public de l'entreprise verte, l'entreprise qui cultive de la biomasse, donc beaucoup d'attention au programme pédagogique. Et aussi, et ça c'était le point peut-être un peu plus étonnant dans la lecture que je fais de ces documents du pacte plan agricole, mais aussi d'autres documents qui sont été un peu censés être distribués et censés illustrer les démarches à poursuivre pour les entrepreneurs pour développer la filière courte des bioénergies. L'idée est celle de construire un cadre plus agréable de milieu de travail, c'est-à-dire constituer leur milieu de travail par les biais de certaines structures paysagères particulières, le bocager en particulier, la formation végétale secondaire, qui ont principalement une fonction esthétique, c'est-à-dire le cadre dans lequel les biomasses doivent être produites, c'est un doit être beau, parce que comme ça on a plus de chances de faire attirer une population périurbaine, urbaine dans sa propre entreprise pour pouvoir faire montrer son propre engagement dans la filière des agroénergies. Là, j'illustre un petit peu un projet en particulier, un projet pilote qui a été développé toujours dans les mêmes cadres de la province de Milan, dans lesquels c'est clair que cette visibilité est... L'idée de cette visibilité est de considérer un petit peu cette question des agroénergies comme un ingrédient, disons, de la campagne de verdissement de la ville. Et enfin, aussi, afin d'arriver à la conclusion, je voudrais quand même mettre en évidence la manière dont cette idée des grandes ouvertes a été utilisée par la provincia vis-à-vis de l'évolution vers de la ville de Milan vers dans la perspective de l'Expo Milan 2015 où carrément la ville a changé cherche de changer une image beaucoup parce que cette politique est beaucoup centrée sur l'emploi des agroénergies donc cherche à changer l'image par les biais des agroénergies. Et enfin, puisque j'ai moins que minutes à disposition encore, la conclusion que j'ai apportée à cette étude, c'était un petit peu double. D'une partie, les agroénergies ont été utilisées comme stratégie d'action institutionnelle et donc comme une manière d'améliorer un petit peu l'interface entre l'urbain et l'agricole. Et donc une sorte de fenêtre importante, ouverte à partir de l'urbain vers l'agricole. Mais toutefois, il y a des risques. On a bien vu qu'il y a des risques importants qui sont entraînés par surtout des moments où l'agroénergie est contextualisée au sein de programmes de vaste ampleur, comme celle, par exemple, la perspective des événements phares, comme l'Expo 2015. Et donc des risques d'instrumentalisation du discours autour des énergies vertes. Pour l'idée un peu, la réflexion que j'ai développée, moi, en regardant un petit peu cette démarche, est-ce qu'on n'est pas dans les risques de se situer encore, même si on a l'idée de faire évoluer un petit peu les modèles traditionnels grâce aux énergies, mais est-ce qu'on ne risque pas, à travers ces discours construits dans la perspective, par exemple, d'Expo Milan en 2015, risque de se situer encore dans la dialectique un peu manichéenne, ville-campagne, où la campagne, à ces points-là, semble un petit peu, la campagne périurbaine, donc la campagne plus visible par la ville, semble un petit peu prendre sur soi toutes les démarches des compensations du insoutenable développement urbain. Et donc, est-ce que cette problématique de l'agroénergie ne serait pas une autre manière de perpétuer un petit peu une sorte de colonisation de la ville sur la campagne? Voilà.